RFI. Grand reportage.
Le Soudan du Sud à la croisée des chemins. Après avoir acquis son indépendance au bout d'un long conflit avec le Soudan, le pays est tombé dans la guerre civile en 2013. Les violences ont fait plus de 400 000 morts. Un accord de paix a été signé en septembre 2018 entre le président Salva Kiir et les groupes armés, notamment celui du chef rebelle Riek Machar. Mais l'application du texte accuse un important retard et en attendant, le pays retient son souffle. La population vit dans la crainte d'un retour de la guerre. Le Soudan du Sud, en attendant la paix, c'est un grand reportage de Sébastien Nemeth.
Waouh, dans le nord-ouest du pays, une équipe du CICR s'apprête à rejoindre un centre de santé situé à 35 km de la ville. Le site se trouve en zone rebelle. Elena Aiello, déléguée santé de l'organisation internationale, donne des conseils de prudence aux chauffeurs.
Aujourd'hui, nous allons à Govilo. Comme d'habitude, nous passerons les deux barrages du gouvernement, puis deux ou trois barrages rebelles. Nous devons ralentir, voir s'ils nous demandent quelque chose ou s'ils nous laissent passer directement. S'il vous plaît, gardez les oreilles et les yeux ouverts.
Sur la route, le convoi croise des maisons écroulées, des bâtiments brûlés. Les traces de la guerre sont encore visibles et même si les checkpoints sont passés sans encombre, ils rappellent que le pays est encore divisé. Des femmes chantent en attendant leur tour pour voir un médecin. Le centre de santé de Ngovilo se compose d'une douzaine de tentes. Il est géré par les rebelles du SPLM-IO avec le soutien du CICR. Consultation, vaccination, dépistage, accouchement, la structure offre des soins de base gratuits. C'est la seule à fonctionner 24 heures sur 24 à une trentaine de kilomètres à la ronde. Asunta, 25 ans, a marché 3 heures avec son enfant mal nourri pour atteindre Ngovilo.
Il n'y a pas de centre de santé à côté de chez moi. C'est le plus proche, donc on n'a pas le choix. C'est très loin, il faut construire d'autres hôpitaux. Avant la guerre, l'accès était plus facile. Mais les violences ont tout compliqué, même si en ce moment c'est calme et on se déplace plus facilement. Maintenant, on a juste besoin de la paix pour se soigner facilement, vivre heureux avec nos enfants et nos communautés.
C'est l'une des conséquences directes de la guerre. Les combats ont détruit les infrastructures et bloqué le développement du pays, déjà très touché par la pauvreté. Le CICR soutient donc plusieurs centres comme celui-ci pour qu'en zone gouvernementale ou rebelle, des services essentiels continuent. Elena Aiello.
Le CICR est accepté par les deux parties. L'important, c'est que l'on tienne notre parole. Nous sommes neutres et indépendants. Nous respectons les règles. Nous sommes clairs et transparents sur ce que nous voulons faire. Avant la guerre, il y avait beaucoup de cliniques dans la région, mais elles ont dû fermer à cause des violences. Celles qui sont opérationnelles sont soutenues par les organisations humanitaires. Les populations locales n'ont pas les moyens de faire fonctionner ces structures.
Govilo se trouve dans une zone contrôlée par le SPLM-IO de Riek Machar. La structure est donc gérée par les rebelles qui fournissent le personnel, comme Gordon Luis Mango Mbolo Surur. C'est lui qui coordonne l'action humanitaire pour tout l'état de Wau.
Nos supérieurs nous ont informé qu'il fallait coopérer avec le gouvernement. Depuis, la situation s'est normalisée. Il y a eu des rencontres entre les rebelles et le pouvoir à Wau. Ça a facilité les déplacements en ville et dans la zone. Le nombre de patients augmente. Les déplacés viennent dans la zone. Maintenant, il nous faudrait être une structure permanente, pas un centre temporaire, des constructions en dur, pas seulement pour la santé, mais aussi des écoles. On ne peut pas fournir des structures, car nous n'avons pas les moyens financiers. Il n'y a pas de système bancaire ni de système commercial. Nous dépendons de l'aide humanitaire.
Un projet qui dépendra de la volonté politique et des progrès dans l'application de l'accord de paix. D'ici là, les Sud-Soudanais prennent leur mal en patience et attendent des jours meilleurs. Paul Gabriel Oulagba est un cultivateur de 37 ans. Il vient de se faire diagnostiquer pour le paludisme. Pas question pour l'instant de rentrer chez lui vu l'incertitude actuelle.
Je me rappelle les violences, les destructions. J'étais à la maison avec mes enfants quand soudain on a entendu une fusillade. C'était l'armée qui attaquait le village. Nous avons fui pendant qu'ils pillaient et brûlaient ma maison. Je ne vais plus là-bas. On s'est réfugié dans la brousse où j'ai construit une petite maison. Je ne cultive plus, mes enfants ne vont plus à l'école. Je dépends de l'aide humanitaire. Parfois je me sens triste et sans espoir. On a très peu d'infrastructures, de services. Si la paix est appliquée, j'espère voir plus d'hôpitaux et d'écoles. Mais si la guerre reprend, je ne vois rien d'autre à part du malheur.
De retour à Wao, la ville est calme. Depuis l'accord de paix, une partie de l'activité économique a repris. Les combats ont cessé. Cheveux courts, poivre et sel, Elisabeth Noir, mère de 9 enfants, a constaté un vrai changement.
Avant, on entendait les gens se faire tuer ou se faire violer. Tout pouvait arriver. Un jour, au marché, un homme a abattu mon voisin et il s'apprêtait à me tuer, mais quelqu'un l'a désarmé. Mais depuis qu'il y a la paix, ça va mieux. Il n'y a pas de danger en ce moment.
Pour autant, la situation reste volatile. Il y a quelques jours, des rebelles sont entrés à Wao avec beaucoup d'hommes et d'armes. En réponse, l'armée a paradé en ville. Des provocations qui n'ont pas dégénéré en combat, mais qui ont créé un début de panique. Pour Nianyunatuk Khan, les habitants restent sur leur garde.
On a peur quand on voit une personne en uniforme ou armée. Hier soir, on a aperçu un homme qui disait venir de Bira. On ne l'avait jamais vu. Les gens étaient méfiants et se demandaient pourquoi il était arrivé la nuit.
La méfiance s'apparente parfois à de la paranoïa. C'est l'une des conséquences psychologiques de la guerre. Une partie de la population souffre aussi de dépression ou encore d'alcoolisme. Des comportements parfois liés à un traumatisme vécu durant le conflit. Pour Agatha Aboud, psychologue au CICR, l'impact mental de la guerre est une bombe à retardement.
La guerre aggrave les problèmes de santé mentale. Si vous aviez un problème préexistant, le conflit vous empêche d'accéder aux soins. Votre réseau social peut vous abandonner car les gens ont d'autres priorités, donc votre problème peut empirer. Par ailleurs, les gens perdent beaucoup de choses et dépendent de l'aide extérieure et vont se sentir désespérés, démunis. Là, on commence à avoir des problèmes de sommeil, d'appétit, des difficultés pour remplir des tâches quotidiennes. On retrouve des symptômes de dépression, d'anxiété, des idées de suicide. Si on ne s'attaque pas aux conséquences mentales du conflit, des gens deviendront de plus en plus agressifs et violents. S'ils vivent avec beaucoup de stress et que ce stress n'est pas géré ou qu'on ne règle pas sa source, ils vont réagir négativement. Ça veut dire plus d'alcoolisme, plus de drogue, d'agressivité. Ça crée des populations à risque.
Le Soudan du Sud ne compte qu'un seul psychiatre et la psychologie n'est même pas étudiée. Le pays est désarmé face au phénomène. Géré par le gouvernement et soutenu par le CICR, l'unité de soins de Haï Masna est l'un des rares centres offrant une aide psychologique avec des conseillers formés par l'organisation comme Agustino Ayom.
Les gens nous parlent de leurs problèmes. On ne peut pas tout régler, mais on les aide à trouver des solutions par eux-mêmes. On leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls, que les événements ont touché tout le monde. Quand ils ruminent, on les aide à chercher la cause. Ensuite, on rappelle l'importance de revenir.
Elisabeth Noir est venue consulter. Elle a perdu une partie de sa famille et avec ses mots, elle en explique les conséquences.
Je n'arrive pas à communiquer avec mes enfants, ils font des bêtises, j'ai des filles enceintes, d'autres quittent la maison. À une époque, j'étais tellement stressée, je voulais me suicider. Mais depuis que je viens, mon stress s'est réduit. Les enfants commencent à m'écouter et je ne veux plus me tuer.
Le CICR sensibilise les communautés, tente de détecter les cas et forme des gens à l'écoute. Nianyunatuk Khan a vu ses frères mourir, sa maison brûler, des images qui continuent de la hanter.
Je ne dors pas la nuit, je repense tout le temps à mes frères morts. J'ai aussi des absences. J'oublie de donner le sein à mon enfant. Parfois, j'oublie pendant 3 ou 4 jours. Mon mari, lui, ne fait rien. Il ne m'aide jamais.
Aujourd'hui, Nianyunatuk Khan a décidé de prendre sa vie en main. Elle cherche d'abord à divorcer. Les conséquences de la guerre ne sont pas que psychologiques, mais également physiques. Au fil des années et des conflits, des milliers de personnes, civiles et militaires, ont été blessées. Une partie se retrouve au Physical Rehabilitation Reference Center, ou PRRC, dans la capitale Djouba. Appuyé par le CICR, mais géré par le gouvernement, le site accueille des dizaines de handicapés pour leur fournir des prothèses, des orthèses, des fauteuils roulants ou encore des béquilles. Kalua Koko s'entraîne à marcher dans des cailloux avec sa prothèse. L'ancien soldat de 37 ans a été blessé avant l'indépendance pendant la guerre contre le Soudan. Le centre lui a fourni une nouvelle jambe mécanique qui, dit-il, lui a donné une nouvelle vie.
En 2002, j'ai pris une balle dans la jambe à Torette durant un échange de tir. Il y a 5 mois, j'avais encore des béquilles. J'étais inutile, j'avais envie de mourir. Mais avec cette prothèse, j'ai l'impression d'avoir ressuscité. Je peux couper les arbres, creuser, je peux faire tout ce que je faisais avant.
Le PRRC compte plus d'une vingtaine d'employés. Il importe du matériel, notamment de Chine. Mais la plupart des prothèses sont fabriquées et réparées sur place. Yunisia Nyababa est technicienne assistante. Elle retire du plastique fondu d'un four et enveloppe un plâtre réalisé au centre.
On est dans la plastic room où nous faisons les moules de préparation des prothèses. On fait ça ici. Les techniciens fabriquent des plâtres qu'ils amènent ici. On assemble et on les amène aux bénéficiaires pour qu'ils s'entraînent. Un centre comme ça, c'est rare. Il y en a un à Djouba, un à Rumbek et un à Waou. On ne fait pas ça pour l'argent. On aide nos compatriotes sud-soudanais. On a une mission importante. Vu notre situation, il y a beaucoup d'amputés. Mais avec la prothèse, ça leur facilite la vie. Ils peuvent s'assumer. Ça aide pour l'avenir.
Les bénéficiaires viennent de tout le pays et sont logés dans le centre le temps de leur formation, sachant qu'il faut 3 à 4 semaines pour s'y habituer. Un entraînement difficile, notamment dans un pays où l'accès aux handicapés est très limité. Oketo Robert Kenyala, physiothérapeute.
Dans ce pays, il y a 75 à 80% des personnes handicapées qui l'ont été à cause d'une blessure par balle. C'est dur de s'adapter ici. La topographie d'une région à l'autre est différente. Et se déplacer dans la boue, dans le sable, tout cela est un défi. Sans compter l'insécurité. On n'est jamais préparé à se faire blesser. Au début, c'est toujours un traumatisme. D'autant plus si vous êtes la personne qui subvenait aux besoins de la famille. Mais quand vous arrivez ici, vous verrez des gens marcher malgré un handicap plus grave que vous. Là, le processus d'acceptation commence déjà et vous pourrez marcher à nouveau.
Logielo Pougué a plutôt bien accepté son sort. Âgé de 25 ans et père de 5 enfants, c'est l'une des victimes collatérales de la guerre, amputé de la jambe après avoir reçu une balle perdue. Il s'est longtemps déplacé avec un bâton, remplacé aujourd'hui par une prothèse. Sa vie a changé, mais sa réinsertion dans la société n'est pas totale.
Maintenant, je peux aller chercher de l'eau, prendre ce dont j'ai besoin, aller dans des endroits qui m'étaient inaccessibles avant. Sauf que je ne travaille pas, je cultive un peu. J'ai des plantes de okra, je récolte et je vends. Mais si j'avais l'opportunité, j'aimerais vraiment travailler. Sauf que des gens me regardent encore comme un handicapé, incapable de quoi que ce soit. Alors je pourrais par exemple faire le ménage ou participer à un chantier. Mes bras et mes mains fonctionnent parfaitement.
Au Soudan du Sud, après le conflit contre le Nord, puis la guerre civile, plusieurs générations n'ont quasiment connu que les violences. Logielo Pougué, lui, a bien du mal à être optimiste pour l'avenir.
Je suis né dans la guerre et je vis encore dans la guerre. Mes enfants sont nés et ont grandi dans la guerre. Si ça continue, je vais peut-être mourir dans la guerre. Parfois, je demande à Dieu d'adoucir le cœur de nos chefs pour qu'on ait la paix. Je ne peux que prier.
Prier pour que la paix arrive, les Sud-Soudanais en sont rendus là, à espérer, impuissants, que le président Kiir et les chefs rebelles parviennent à s'entendre. Néanmoins, l'accalmie dans les combats en a convaincu certains à rentrer. Le Soudan du Sud compte plus de 4 millions de déplacés et réfugiés, mais plus de 530 000 d'entre eux sont revenus au pays depuis l'accord de paix. La plupart n'ont pourtant pas retrouvé leur ancienne maison. Ils préfèrent pour l'instant s'entasser dans des camps. Près de Bentiu, dans le nord, un camp rassemble plus de 100 000 déplacés. La région a été l'une des plus touchées par les massacres pendant la guerre, mais l'accord de paix a donné un nouvel espoir. Bosco n'a que 20 ans, réfugié pendant 2 ans à Khartoum, il a préféré rentrer s'installer au camp malgré le traumatisme.
J'ai vu qu'ils avaient signé un accord, puis les combats se sont calmés, donc je suis rentré. Je me souviens des violences, de la fuite. Je fais encore des cauchemars, mais je suis rentré car c'est mieux d'être chez soi que de rester au Soudan.
Anan Chatim, elle, est revenue il y a à peine un mois avec son mari. Après avoir vécu au sud de Khartoum, elle vient de Bentiu, mais préfère rester au camp.
La maison a été brûlée, elle n'existe plus. Je passe devant parfois, la parcelle est toujours là. Ce ne sera pas facile de reconstruire, mais un jour le pays sera en paix et on revivra normalement. Dans les guerres du passé, on a toujours fini par trouver une solution, donc il faut y croire.
Tous ces retours sont totalement spontanés. Les humanitaires n'encouragent pas encore les réfugiés à revenir au pays. Pour Abchoua Théo, chef du bureau du HCR à Bentiu, il est encore trop tôt.
La situation peut changer en une fraction de seconde. Donc ça n'est pas un environnement favorable au retour. Nous ne pouvons pas demander aux gens de revenir alors qu'ils pourraient se retrouver dans une situation encore plus difficile. Bien sûr, on ne peut pas les empêcher de rentrer. Et quand ils sont ici, nous faisons tout pour les aider.
Le camp de Bentiu a atteint sa capacité maximale. Si la situation humanitaire reste correcte, d'autres types de violences ont émergé, notamment entre les déplacés eux-mêmes. À plus de 70 ans, Guy Galuak préfère rester à l'écart des conflits.
Les vieux comme moi, on ne se querelle pas, ça concerne surtout les jeunes. Ils se battent entre eux. Ils s'infiltrent avec des armes le soir. Certains font des trous pour les cacher et les enterrer la nuit venue. Il y a des tensions aussi parmi les communautés, notamment quand une fille d'un clan différent tombe enceinte, ou si quelqu'un est tué par un autre groupe. Tout ça entraîne des vengeances.
Diop Kai est assis sur une chaise, l'air pensif. Il n'a que 20 ans. Il est en âge de courir après les filles, mais vu le contexte, il préfère être prudent.
Si tu mets une fille enceinte et que tu n'as pas d'argent pour le mariage, sa famille peut te tuer. Puis ta propre famille va se venger. Et ça continue comme ça. Certains respectent la tradition et se marient. Moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je fais attention.
Dans chaque district du camp, les déplacés ont élu un wash group qui sert d'intermédiaire avec les humanitaires, mais qui tente aussi de régler les problèmes internes. Neriya Mayan en fait partie.
On disperse les groupes de jeunes, on interdit les armes. En cas de problème, on organise un dialogue et on se coordonne avec les wash groups des autres blocs. Il y a des vieux conflits familiaux qui ressurgissent ici. Quand c'est trop fort, on saisit le haut comité, la plus haute autorité. Les casques bleus peuvent aussi arrêter quelqu'un.
Les casques bleus de la mission UNMIS escortent certains groupes, mais tout le monde ne peut pas être accompagné. Nyakwepo, qui vit au camp depuis 4 ans, part donc elle aussi en groupe sans être rassurée.
Même quand vous êtes avec 10 femmes, si vous êtes attaqué par un homme armé, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Il peut faire ce qu'il veut de vous avec son arme.
Les sorties en groupe apportent une protection très limitée. Une fois arrivées sur les bons sites, les femmes se séparent pour ramasser leur bois. C'est à ce moment-là que certains criminels en profitent pour attaquer. Djouba. Depuis l'accord de paix, la capitale a repris vie, même si la tendance est encore très limitée. Que ce soit dans les camps de déplacés ou en ville, les Sud-Soudanais vivent au jour le jour et dans une incertitude permanente, une situation qui empêche l'économie de reprendre. Peter imprime des logos à l'aide d'une presse. Avec 3 associés, il a fondé sa société il y a 1 an et la fragilité du processus de paix l'empêche de se développer.
Parfois, je reste 1 mois à attendre sans rien faire. L'économie suit la situation sécuritaire et le processus politique. Les hommes d'affaires ne veulent pas risquer leur argent dans un pays qui n'est pas en paix. Moi, si je décide de m'agrandir maintenant, je vais investir pour rien.
L'insécurité et la faiblesse des infrastructures handicapent fortement le pays qui subit une inflation. Regina fait la vaisselle du soir dans son restaurant. Malgré la morosité ambiante, elle veut rester optimiste.
Il ne faut pas perdre espoir et se dire que demain sera mieux. Au marché, c'est dur. Chaque fois, j'écarquille les yeux tellement c'est cher. Ici, certains clients s'emportent. Parfois même, ils nous giflent. Mais comme je suis là pour les servir, je m'en fiche.
Des clients nerveux, à cran à cause des prix, Djibou a lui aussi constaté le phénomène dans le garage où il lave des voitures.
On fait payer plus cher parce que tout augmente, l'eau, l'huile. Certains clients se mettent en colère et veulent même se battre. À cause de l'inflation, chacun lutte pour vivre. Parfois, c'est tellement dur. Vous avez envie de tout balancer, de quitter votre travail et de quitter le pays. L'an dernier, j'y ai vraiment réfléchi, mais j'ai renoncé.
Après plus de 400 000 morts, les Sud-Soudanais sont épuisés par la guerre. Pourtant, les jeunes n'ont pas abandonné leur rêve d'avenir. Ujumwon est l'un des responsables du camp de déplacés de Mangatine à Djouba. Il n'a même pas 30 ans et a déjà connu la guerre contre le Soudan, puis la guerre civile. Malgré tout, il ne veut pas fuir, il veut rester et servir son pays.
Je travaillerai avec toute mon énergie pour le Soudan du Sud en devenant docteur. La politique est devenue un business, alors je veux devenir médecin pour aider mon peuple. Nous sommes une jeune nation, le niveau d'études est très faible. Il faudrait des bourses pour que les étudiants étudient à l'étranger. Et en revenant, ils pourraient apporter un savoir-faire crucial, car il n'y a pas de matériel.
Les jeunes Sud-Soudanais sont prêts à soutenir leur jeune pays pour peu qu'on leur en donne l'occasion. Seule la paix permettra à toute une génération de se redresser après tant d'années de tragédie. Leur avenir est désormais entre les mains des politiques qui se battent pour le partage du pouvoir.
Le Soudan du Sud, en attendant la paix, un grand reportage de Sébastien Nemeth, réalisation Pierre Chaffon.
Appelez-nous